je m'appelle Sophie Gauthier, je vais vous parler de Human Foundation. Ah d'accord. Donc je vais vous parler de The Document Foundation, qui est la fondation qui héberge le produit de développement LibreOffice maintenant. Ok. Hop. Donc en fait, j'ai très peu de... Je vais essayer de ne pas me casser la figure dans les fils. J'ai très peu de slides. J'aimerais bien que ce soit assez interactif. Donc je vais vous expliquer dans un premier temps ce qui s'est passé, comment on en est arrivé à LibreOffice. Vous savez sans doute, vous connaissez sans doute OpenOffice.org. Vous savez que c'est un produit qui existe déjà depuis 10 ans, qui avait une communauté autour d'elle. À l'origine, OpenOffice.org était financé, créé par Sun. Et ensuite, Sun a été racheté par Oracle. Et donc, il y a eu un petit moment de flottement avec Oracle où ça a été une communication assez difficile, où on avait du mal à arriver à faire ce qu'on voulait. Et donc, il y a une partie de la communauté OpenOffice.org qui a décidé de s'émanciper et, au bout des 10 ans, a décidé qu'elle continuerait à poursuivre le développement de la suite bureautique sous sa propre fondation, en créant sa propre fondation. Et c'est ce qui a été fait avec The Document Foundation, il y a un an à peu près maintenant, il y a un tout petit peu plus d'un an, cette fondation a été mise en place avec une grande partie de la communauté. Ça m'a perturbée qu'il m'ait dit que j'ai plus de 25 minutes. Une grande partie de la communauté OpenOffice. Cette fondation, elle est pratiquement terminée au niveau légal d'être montée. C'est une fondation berlinoise, donc déposée légalement à Berlin. Par contre, elle fonctionne déjà. Hein, elle a déjà, disons, tous ses organes qui sont en place, puisque depuis un an, on fournit des versions et on continue le développement, on poursuit le développement. Alors, comment elle fonctionne ? Il y a un board des directeurs qui vient d'être élu. Donc, il y a 9 directeurs, c'est 7 plus des suppléants, qui s'occupent de toute la partie administrative et gestion de la fondation. Et puis, il y a un membership committee qui, lui, est chargé de recruter des membres et donc de valider les membres de la fondation. Les membres de la fondation sont tous ceux qui participent. Okay, merci. Tous ceux qui participent et au développement du produit en lui-même, c'est-à-dire à la QA, enfin à l'assurance qualité, localisation, développement du code, documentation, sont vraiment les acteurs de la fondation. Et puis en dehors de ces membres, il y a aussi donc un advisory board. Advisory board est l'organe qui va regrouper tous les sponsors que nous avons dans la fondation. À l'heure actuelle, les sponsors, c'est Novell, qui fournit donc la plus grande partie des développeurs, Red Hat également, Canonical, j'en oublie pas, et puis Lanedo aussi, qui est une plus petite entreprise. Et puis, on a comme sponsor, mais qui fournit plus du financement que du code, Google également. Au niveau des développements, la Document Foundation, en fait, elle est considérée comme un parapluie qui va accueillir non seulement LibreOffice, mais également d'autres développements à partir du moment où on reste dans le domaine de la bureautique et du format ODF, puisque on est un des principaux supports du format ODF à travers LibreOffice. Donc, dans les développements, il y a LibreOffice, bien sûr, qui est la suite bureautique phare pour le moment. Et puis, il y a aussi une version en ligne qui est en cours de développement. Ça va doucement, parce que c'est beaucoup de bénévolat, donc ça va tout doucement. Mais c'est vraiment un pôle d'intérêt très important. Et puis, il y a également un port sous Android, c'est pareil, qui va doucement, parce que c'est que du bénévolat. Et il y a peu de développeurs qui travaillent dessus, mais petit à petit, on arrive à intégrer le port et à travailler avec le SDK. Donc voilà pour le volet fondation. La fondation, elle se veut uniquement et entièrement méritocratique. Et donc, il y a beaucoup de discussions. Il y a encore tout le règlement a été écrit, mais il y a encore des choses à discuter. C'est un projet qui est jeune, hein, parce qu'il a un an. Donc, il y a encore des choses à faire. Tout n'est pas figé dans le temps. Vous savez également que le code d'OpenOffice.org a été donné par Oracle à la fondation Apache et que la fondation Apache, pour l'instant, ne compile pas le produit, fait le tri entre ce qui est utilisable sous la licence Apache et ce qui ne l'est pas. Tout ce qui est GPL, LGPL n'est pas compatible, donc doit être retiré. Donc pour l'instant, ils font le tri dans les librairies et puis ils verront ensuite ce qui sera possible de compiler ou pas et quel produit ça fera. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a plus de version OpenOffice.org qui évolue. Hein. Il y a la dernière qui a été livrée, qui était la 3.3. Si mes souvenirs sont bons, peut-être 3.2, je ne sais plus. Enfin bref, on est 3.3. La prochaine version qui devrait pouvoir mettre à disposition, donc qui s'appellera Apache Open Office, ça devrait être l'année prochaine, on va dire dans le premier, deuxième trimestre de l'année prochaine. Mais ce ne sera pas la version OpenOffice.org telle que vous la connaissez à l'heure actuelle. Ce que ça va donner, on n'en sait rien. Il y a IBM qui pousse beaucoup derrière cette version Apache OpenOffice. L'intérêt pour eux, c'est bien sûr de porter Symfony et de continuer à développer Symfony. Donc ça en fait un concurrent, si on veut, de LibreOffice, dans la mesure où les licences ne sont pas compatibles. On ne peut pas avoir de développement commun. Suivi avec Apache, ce qui est un peu dommage. On aurait pu essayer effectivement de travailler plus ensemble, mais pour l'instant ça ne se fait pas. Et il reste encore des problèmes politiques et économiques à traiter. Voilà. Vous avez des questions sur le volet fondation ? Non ? Côté OpenOffice, Apache. C'est clair ? Non. Alors maintenant, vous connaissez LibreOffice ? Oui, vous étiez utilisateur d'OpenOffice, LibreOffice ? Oui ? Vous avez essayé déjà LibreOffice ? Vous êtes... Ouais ? Donc, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Alors, LibreOffice, donc c'est une suite bureautique. Hein. La version actuelle, c'est la 3.4. Donc, par rapport à OpenOffice.org, c'est une version qui a réintégré les patchs qu'il y avait sous la version Go. Vous connaissiez peut-être ce fork hein, qui était la version maintenue par Novell. Donc on a réintégré pas mal des patchs qu'ils avaient développés dans la version de LibreOffice. Et puis il y a des développements. On a pas mal de contributeurs qui viennent juste contribuer un patch et qui repartent. On a eu des phases de nettoyage du code. Comme c'est un produit qui a été créé en Allemagne, il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années maintenant hein, que le code d'OpenOffice.org existait, c'était StarOffice à l'époque, c'était créé en Allemagne et donc la plupart des commentaires qui étaient dans le code, enfin, pas la plupart, mais il y avait encore beaucoup de commentaires qui étaient en allemand. Donc on a eu aussi pas mal de travail pour traduire tous ces commentaires en anglais, faire du nettoyage et permettre ainsi un accès plus simple aux développeurs qui voudraient nous rejoindre et surtout aux développeurs ponctuels. Parce que c'est 8 millions de lignes de code, hein, LibreOffice. Donc avant de pouvoir rentrer dedans, il y a vraiment une phase d'apprentissage. Et puis comme c'est du code retravaillé, 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 il y a énormément de dépendances. C'est un gros produit. avec des modules qui sont complètement interdépendants. Donc il y a vraiment, quand vous touchez un petit coin ici, vous allez détruire de l'autre côté là-bas. Donc là, il y a vraiment un travail de morcelage et de simplification qui a été fait, qui est toujours en cours. Donc si ça vous dit de faire du nettoyage, vous êtes le bienvenu. Vous êtes accueillis, soit sur IRC, soit sur nos listes, mais accueillis, accompagnés tout le temps, tout du long, du jour et de la nuit, puisque ça fonctionne jour et nuit, on a du monde partout. Donc n'hésitez pas si ça vous dit à venir. Voilà. Donc alors cette version actuelle, elle est multiplateforme toujours. Hein, elle fonctionne sous Linux, sous Windows et sous Mac. Il y a un vrai travail qui est fait sous Linux d'intégration. Et puis vous savez que pour la version Ubuntu, Canonical nous a dédié un ou deux développeurs, je ne sais plus combien ils sont maintenant. Exactement, peut-être trois, non, je ne sais plus. À temps complet pour travailler au packaging et à l'intégration. C'est pareil sur les versions, donc je vous ai dit Red Hat, Novell. Donc on a une intégration sous Linux et sous toutes les versions Linux qui fonctionnent. On a aussi des développeurs qui se dédient à la version Windows. C'est clair qu'on manque de testeurs, par contre, pour les versions Windows. Donc si vous êtes sous Windows et que vous voulez nous aider à faire que cette version fonctionne mieux, ben, bienvenue également. Et puis ben, la version Mac, c'est pareil, là, c'est difficile hein, d'avoir du monde pour tester sur Mac, c'est pas évident. Mais bon, elle fonctionne en tous les cas, toutes les trois. Puisqu'on est là dans des journées Ubuntu, je vous parle aussi de notre interaction avec Canonical. Il est question en ce moment de s'organiser mieux pour qu'on fasse de l'assurance qualité en commun et peut-être qu'on utilise les mêmes outils d'assurance qualité ou en tous les cas qu'on arrive à travailler ensemble sur l'assurance qualité. Et donc Canonical nous fournirait des ressources également sur l'assurance qualité. La version en ligne aussi intéresse beaucoup Canonical, donc on devrait arriver à, c'est pas encore formalisé, mais arriver à trouver des moyens de travailler ensemble de ce côté-là. Vous avez des questions ? Alors c'est une version, vous connaissez Google Docs ? Non ? Alors c'est une version où vous pouvez travailler vos documents en étant connecté et à plusieurs sur ce même document. Voilà. Donc au lieu d'être résidente sur votre poste de travail, elle est en fait c'est une version qui est sur un serveur et accessible à plusieurs et gérable à plusieurs. La difficulté d'une suite en ligne, c'est d'en garder la richesse, de garder toutes ces fonctionnalités. Si vous connaissez Google Docs, en fait, il y a peu de fonctionnalités par rapport à la richesse que peut offrir une suite résidente sur un poste de travail. C'est gérer les multisessions. S'il y en a un qui ferme le document, est-ce qu'on est sûr que tout sera enregistré ? S'il y a une panne d'internet ou une panne d'électricité, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de perte de données, et puis gérer le multifenêtrage, etc. C'est des choses qu'on ne sait pas encore bien faire. Donc il y a pas mal de travail encore pour arriver à vraiment utiliser le code d'OpenOffice sur une version en ligne. Okay. D'autres questions sur cette version-là. En C++, principalement. Et puis, les parties qui étaient en Java sont portées en Python. Et enfin, y a plusieurs langages hein, qui sont utilisés, mais majoritairement, c'est du C++, et on essaie de faire que tout soit le plus possible en C++. Il y a possibilité de rajouter des fonctionnalités à travers des extensions. Et là, il y a plusieurs langages qui sont utilisables, hein, parce qu'en fait, ça utilise, ouais, ça, c'est possible d'interfacer plusieurs langages. Donc on peut développer des extensions et faire que ce soit géré de façon assez transparente une fois que c'est installé par la suite bureautique. Alors le futur c'est la version 3.5 qui viendra au mois de février avec pas mal de fonctionnalités en plus par rapport à ce qu'il y a maintenant. On aimerait bien aussi arriver à faire une belle interface, hein, plus sexy que celle qu'il y a depuis. Mais là aussi, c'est difficile parce que il y a peu de ressources en design. Et s'il y a des ressources en design, c'est des designers purs, hein, et qui ne savent pas forcément travailler avec des développeurs. Donc il y a vraiment ce qui nous manque là, c'est un peu l'interface entre les designers et les développeurs pour que ça puisse être traduit correctement. Quand il y a quelqu'un qui vient avec un superbe design, que ce soit traduit directement en ressources et en force pour les développeurs. Voilà. Mais bon, il y aura pas mal de petites choses en plus qui seront intéressantes. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a ? Aussi une gestion des pieds de page, par exemple, qui sera assez différente et vraiment simplifiée à chaque fois. On essaie de simplifier quand même les utilisations. Alors la communauté autour de cette suite bureautique, c'est une communauté internationale. On a, je crois que c'est à peu près 100 langues qui sont en cours de portage. Donc à chaque fois qu'on a des langues, ça veut dire que derrière, on arrive à avoir une documentation, à avoir de l'assurance qualité, à avoir du support qui peut être fait dans la langue dans laquelle la suite existe. Donc cette communauté internationale, elle travaille ensemble jour et nuit. Elle s'est réunie il n'y a pas longtemps à Paris. On a fait notre première conférence au mois d'octobre. Il y a eu pas mal de conférences techniques qui ont été réalisées, qui sont disponibles sur le site, si ça vous intéresse. Elles sont toutes, je pense maintenant, sur le site ou sur le wiki. Les adresses sont sur la slide, la diapo d'après. C'est environ, je pense, une centaine, un peu plus, on doit être entre 100 et 150 développeurs, à peu près, et puis localiseurs. Donc, traducteur, on va dire, ceux qui portent l'interface et l'aide dans leur langue, on est environ 170. Et puis après, plus on arrive vers l'assurance qualité, la documentation, il y a beaucoup, beaucoup moins de monde. Notamment aussi parce qu'on a changé de process de développement. On donne des versions tous les 3 mois, voire des fois tous les mois. Et donc, pour faire de l'assurance qualité, ben c'est compliqué parce qu'il faut remettre tous les process en place. Ceux qu'on connaissait sont plus valables. Et donc, à chaque fois qu'on doit mener une communauté et refaire des process, ben c'est comme quand on fait une migration, hein, les utilisateurs, ils sont pas contents de changer. Donc, à chaque fois, il y a une inertie avant que ça reparte. Et là, c'est vrai qu'en assurance qualité, il y en a qui est faite, hein, parce que heureusement, on a des builds toutes les nuits, donc il y a des gens qui s'y consacrent tous les jours. Mais c'est vrai qu'on manque d'un fond de roulement, comme on l'avait sous OpenOffice les dernières années. Et puis la documentation, c'est pareil. Alors c'est dommage, mais au niveau international, on a beaucoup de mal à remettre en place une documentation. Et notamment au niveau francophone, on a très peu de monde qui travaille à l'heure actuelle sur la documentation LibreOffice francophone. Très très peu. Et donc, si vous avez du temps, un peu de talent, même en traduction, parce qu'il y a des guides qui existent en anglais, qui peuvent être traduits. Donc, si ça vous intéresse de travailler de l'anglais au français, on est preneur et on vous accueille. Il y a la fac à maintenir à jour, les nouvelles fonctionnalités à documenter. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, la communauté francophone, elle est bien vivante, hein, on la voit, et je pense que si vous allez aux Journées du Libre à Lyon la semaine prochaine, vous en verrez aussi un bon échantillon. Il y a beaucoup de monde qui est présent pour faire du support, du marketing, qui assiste aux événements, qui tient des stands. On a vraiment le noyau dur de la communauté Open Office telle qu'on connaît depuis 5-6 ans, qui a bien suivi sur LibreOffice et qui a su recréer une dynamique. Même si c'est encore difficile, on y arrive. Alors, autour de LibreOffice, en France, vous connaissez peut-être l'association La Mouette ? Non ? Ben justement. Cette association, c'est une association de loi 1901, donc qui fait du support, qui récolte des fonds, qui fait du support, à la fois sur openoffice.org d'ailleurs, et sur LibreOffice, parce qu'on a dit on laisse aucun utilisateur de côté. Donc elle représente les deux produits lors des manifestations, et puis elle finance les déplacements, elle finance les stands, elle finance tous les goodies qu'on peut avoir et qu'on distribue. Voilà. Et puis elle essaye d'avoir des actions de soutien auprès de la Dulact, auprès des entreprises, des grands comptes, voilà. De nous trouver un peu des sponsors et du soutien vers ces entreprises. Donc l'écosystème, c'est aussi un ensemble de consultants, de formateurs, de développeurs qui sont autour du produit LibreOffice et qui sont capables de faire du niveau 1 au niveau 3. Et c'est cet écosystème d'entreprises qui participent à la fois au développement du produit et qui apportent du soutien aux utilisateurs. C'est un écosystème qui est très important, qui permet vraiment à la fois aux utilisateurs d'être confortables dans la migration ou dans l'utilisation de la suite bureautique, et puis en même temps qui permet tout simplement de continuer le développement de LibreOffice de façon indépendante et gratuite. Parce que les problèmes qu'on a eus avec Oracle étaient parce qu'on était complètement sous l'égide d'Oracle. C'était pas évident avec Sun, mais Sun était plus open source friendly que n'était Oracle. Et donc là, la fondation est une fondation complètement indépendante. Si on veut continuer à pouvoir développer des produits, que ce soit LibreOffice ou d'autres produits open source de façon complètement indépendante, on a besoin qu'il y ait un écosystème autour d'entreprises qui sont capables de participer à la fois au développement et au soutien des utilisateurs. Donc, c'est une petite aparté vraiment que je voulais vous faire sur ça. Quand vous, utilisateurs, migrez votre entreprise, essayez pas de le faire tout seul, parce que déjà c'est très difficile. Mais faites appel aux gens qui savent le faire, dont c'est le métier de le faire, et qui en même temps participent au développement du produit sur lequel vous migrez. Des questions ? Ouais. Vous parlez d'OpenOffice ou de LibreOffice ? D'accord. Ouais.
Donc une fois que la case accessibilité est cochée, bon bah après ça va. Bon, en rencontre mondiale des logiciels libres avec April, on a mis au point donc effectivement un outil pour faire remonter les bugs. Alors ça doit se situer à peu près au mois d'août, où tout simplement j'ai fait remonter que simplement le fait déjà d'aller sur la barre d'outils et de se déplacer sur le titre du menu et que la lettre soulignée n'était pas dite, ce qui fait que, et ensuite pour le nom des commandes exactement la même chose. Alors, ce qui fait qu'on peut pas faire, par exemple, du Alt F et puis.
Ouais, mais là, ça vient de.
Bon, j'ai donc ça a été fait au mois d'août. J'ai eu aucune réponse par la suite. Or, April l'a bien fait remonter jusqu'au développeur.
Faudrait que je vois avec eux parce que moi, j'en ai pas entendu parler.
Oui.
Donc, faudrait qu'on voit ça ensemble.
Et ce qu'on est, alors, avec la liste de distribution à l'os, là, qui eux, donc, effectivement, parlent d'IBM Lotus Symfony, alors, qui ne pose aucun problème à l'installation, qui est tout de suite accessible, mais justement parce qu'elle ne passe pas par Java.
Symfony?
Oui.
Oui, ah oui. C'est
voilà.
Ben oui,
et on se dit, et pourquoi pas, effectivement, que OpenOffice ou LibreOffice n'utiliserait pas le même outil d'accessibilité au lieu d'utiliser Java.
On attend que IBM nous le donne. Ça fait 5 ans qu'ils nous disent
ouais,
on va donner le code. Et puis ils ont encore fait un effet d'annonce là, mais on l'a toujours pas.
Ouais. Ce qui donc, fait que voilà, nous sommes très hésitants pour faire notre choix en ce moment,
ouais.
Notre choix de bureautique.
A priori, le framework qui est accessible 2, qui est utilisé. Enfin, ce qui a développé IBM devrait être versé aux communautés. Mais bon,
voilà,
a priori.
Nous sommes donc dans l'attente.
Voilà, tout à fait. Mais ceci dit, la démarche que vous avez eue avec l'April, elle est bonne. Il faudrait qu'on se la coordonne un petit peu plus, parce que visiblement, ça n'a pas marché comme ça devrait. Je sais pas à quel endroit ça... Moi, je teste LibreOffice avec Orca. Oui, voilà.
Là, c'était bien sous Windows et avec NVDA comme revue d'écran.
Donc le problème, c'est que j'ai pas de Windows et j'ai pas de JAWS
Non, mais même.
Et donc voilà. Vous avez d'autres questions?
Vous parliez de chanoui IRC et de, ben voilà, ça doit être de serveurs, etc. Donc si vous avez les liens.
Voilà, alors les liens, voilà. J'avais oublié, mais voilà. Les liens sont là, donc il y a le lien sur la Document Foundation, hein, qui est donc la fondation. Le wiki regroupe tout. Toutes les langues, tout notre travail, tout est dessus. Donc le wiki va bientôt migrer et être développé plutôt en FR, voilà, après avec la langue en premier plutôt que en dernier. Ça, c'est le site francophone. Vous trouvez les versions en français, les adresses, etc. Et puis je vous ai mis aussi l'adresse de la mouette. Comme ça, si vous voulez aller faire un petit tour. La mouette a une boutique également avec Framasoft. Comment elle s'appelle cette Je sais plus. Il y a la boutique de Framasoft qui est partagée avec Ubuntu en vente libre. Voilà. Donc il y a un volet la mouette aussi. Là-bas, vous trouvez des t-shirts, des casquettes, des mouettes. Des tours de coups. Voilà. D'autres questions? Non? Ouais?
Et je voulais poser la question vis-à-vis de la suite Microsoft Office, en fait. Est-ce qu'il y a une date cible quand LibreOffice sera au maximum compatible avec des fichiers enregistrés avec Microsoft Office, des .doc, etc. Parce qu'à chaque fois qu'on les ouvre, c'est toujours un peu...
Ça dépend de la façon dont il a été fait. En fait, c'est surtout ça, dont le .doc a été créé. Et la façon dont on s'est assuré qu'il pourra être compatible avec un format ODF. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens créent des documents sans s'occuper de leur structure. Or, pour qu'un document soit compatible, il faut que la structure, elle soit propre, claire, nette, et qu'il n'y ait pas des scories, des retours à la ligne en trop, des tableaux qui ne sont pas des tableaux, mais des images avec des choses comme ça. Enfin, bon, plus on complique un document en le structurant de façon hors piste, plus ça devient difficile après à porter. Donc on pourra avoir des filtres qui seront parfaits, mais si le document en lui-même n'est pas construit de façon parfaite, il ne communiquera pas bien. Donc là, je dirais maintenant, c'est plus tant une question de filtre, parce que depuis le temps que je vois des documents qui sont ouverts sous OpenOffice ou sous LibreOffice et qui viennent d'Office, c'est plus tant une question de filtre, c'est aussi une question de savoir construire un document correctement. Voilà. Ce sera jamais parfait. À moins que l'utilisateur le soit aussi.
Ouais. Et dans le sens inverse du portage de LibreOffice vers Microsoft Office.
Ah bah c'est pas nous là. Non, si les filtres d'export aussi. Mais normalement, on devrait arriver, puisque le format est documenté maintenant hein, de Office, on devrait arriver à communiquer. Je pensais que vous auriez plus de questions que ça. Je vais laisser plus de temps pour vos questions.
Oui, à propos des nouvelles fonctionnalités de LibreOffice 3.5, ouais. Est-ce qu'il y aura notamment une refonte des styles de base
ouais.
qui datent un peu quand même
ouais.
qui ne sont pas vraiment utilisables, ou faire un peu comme dans Office avec plusieurs styles possibles
ouais.
Est-ce que ça a été envisagé?
Alors ça, c'est en cours de discussion, effectivement, et je sais qu'il y en a déjà qui ont été supprimés. Pas supprimé, mais organisé de façon différente. Mais ouais, c'est en cours de discussion. Donc même si ça t'intéresse et que tu veux y participer, on en parle souvent sur IRC, sur le canal francophone IRC. Il y a le développeur qui est présent, qui est français, hein, sur Writer. Donc il est présent sur le canal et pour en discuter avec lui, il n'y a pas de souci. Ah oui, j'ai pas mis le canal IRC, mais sinon c'est noté soit sur le wiki, soit sur le site francophone, hein, vous avez les canaux IRC sur lesquels on est. Mais c'est LibreOffice-dev, LibreOffice-fr, LibreOffice tout court, pour le canal anglais pour trouver de l'aide. On va arrêter là, alors, si on n'avait plus de questions. Il restait 5 minutes.
Pour les bureaux francophones de LibreOffice, c'est principalement le fichier marketing, ce qui est amené le produit au public, ou il y a aussi du hacking.
Au niveau francophone ? Oui. Il est aussi possible de développer, de hacker, de...
Ça, je veux dire, mais les contacts, pour en avoir des...
Oui.
Jusque-là, j'ai trouvé le SDM en anglais, et au niveau du développement, c'est des... plein de petits patchs et tout ça, mais je me demandais ce qu'il y en avait des Français, quoi, enfin,
ouais,
des
ouais,
gens qui sont retrouvés plus facilement.
Alors, on va essayer de mettre ça en place en France, parce que c'est vrai qu'au niveau francophone, il n'y a pas que des gens qui sont en France, il y en a qui sont en Inde, il y en a qui sont en Afrique aussi. Mais on va essayer de mettre ça en place en France, un week-end de hacking. Justement parce que Cédric Bosdona, hein, qui est le développeur principal, writer, est français. On va essayer de mettre en place un week-end de hacking. Je sais pas quand, février-mars, plutôt mars, où des francophones se retrouveront pour faire du hacking pendant tout un week-end. Alors, on fera les pâtes et les pizzas. Non, par contre, si vous êtes intéressé par l'assurance qualité, la localisation, c'est pareil, on peut travailler là-dessus. Il y a vraiment pas mal de choses à faire.
On avait un OpenOffice basique, ce qu'on le retrouve dans LibreOffice, et ce qu'il a été un peu débugué.
Non, enfin, on le retrouve, mais il n'est pas débugué. On a très peu de développeurs sur base, et en plus ils aiment pas les développeurs n'aiment pas le module visiblement, donc on a beaucoup de mal avec le module de base de données, voilà. Non, mais oui.
LibreOffice en entreprise ou chez les particuliers, est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que ça progresse?
Non, pas vraiment de chiffres. On sait, ils n'ont pas encore fait l'annonce, mais ils sont en train de mettre les liens à jour que les ministères migrent sur LibreOffice. Donc ils passent de OpenOffice à LibreOffice, mais après non, on n'a pas vraiment de retour des entreprises, pas vraiment de retour. On est toujours preneur de ça. Nos stats de téléchargement, elles sont complètement floutées parce que les produits libres, c'est des produits qui se piratent, qui se s'installent comme on veut, qui se copient, voilà, c'est fait pour ça. Et donc du coup, on a très peu de visibilité sur la façon dont ça pénètre le marché.
Et donc, je viens d'apprendre, donc j'arrive à Paris-Sud-Paris 11, j'étais en train de dire, et donc ils sont en train de créer une interface utilisateur professionnel et utilisateur, et dessus, par défaut, il y a donc des logiciels bureautiques, c'est LibreOffice.
Ok.
Donc, sur l'outil usager, étudiant et professionnel, ce sera LibreOffice.
D'accord.
À partir de Noël et un peu après Noël.
D'accord, ok. Donc on sait voilà, par retour comme ça, on sait que ça se répand petit à petit, puis on le voit, mais avoir des chiffres exacts, pour l'instant, on n'en a pas. Bien, je m'arrête là. Merci beaucoup.